En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « En vérité, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit dans toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une pauvre étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous dirions aujourd'hui que Jésus a échappé à un attentat, qui plus est, qui était fomenté par ses propres coreligionnaires de Nazareth, qui n'ont rien compris à sa personne, qui, lors de son passage, sont vraiment honorés qu'ils puissent leur délivrer un message tiré du prophète Isaïe dans les Écritures. Mais voilà, qui disent, n'est-il pas le fils de Joseph? Pour qui se prend-il? Donc vous sentez dans cette attitude tout le doute qui peut les traverser, et puis la façon dont, au fond, ils regardent Jésus de haut en prétendant en avoir fait le tour. On est quelquefois un peu comme ça vis-à-vis des mystères de Dieu. On prend ça avec distance et un peu avec manque d'humilité. Et alors Jésus, très rapidement, va couper court à ce type de... Enfin, c'est la fleur et mouchetée, mais Jésus va leur citer au fond un certain nombre de dictons ou encore de paroles qu'on se transmet ainsi, ou de souhaits qu'ils pourraient avoir, qu'ils reproduisent ici à Nazareth des choses merveilleuses dont ils ont entendu parler, qu'il avait faites à Capharnaüm. Mais Jésus leur dit, il n'est pas question de jouer au prestidigitateur devant tout le monde. Et Jésus leur rappelle des passages de l'Ancien Testament où Dieu lui-même a eu cette attitude de passer outre et d'aller donner ses bienfaits à des gens dont le cœur était plus ouvert, mais qui se trouvait à l'extérieur d'Israël. Alors il parle de cette veuve de Sarepta au pays de Sidon, c'est au nord, probablement dans le Liban actuel. Et il parle aussi d'Élisée qui a accueilli un Syrien, Naaman. Voilà, et donc ça les rend un peu furieux parce qu'ils comprennent bien l'allusion pour dire que, au fond, ils vont rester bredouilles. Et Jésus s'en va, et plus c'est plutôt eux qui essayent de s'en débarrasser, mais Jésus traverse et passe son chemin et va plus loin. On voit cette attitude de fermeture qu'il y a chez les contemporains de Jésus et chez ses propres amis, frères, sœurs dans sa famille, proches, les gens qu'il a bien connus à Nazareth et qui refusent de l'accueillir dans son message divin. Vous vous souvenez, dimanche dernier, Jésus qui prenait exprès dans le livre d'Isaïe un passage où Dieu annonçait une année de grâce qu'il allait accomplir, annonçait au fond, dressait là encore une sorte de portrait du Messie pour dire qu'il allait accomplir des œuvres de guérison, de libération des captifs, etc. Et Jésus avait dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Autrement dit, je suis celui qui accomplit la parole de Dieu. Et donc, les gens sont absolument fermés à ce type de possibilité. Ça nous interpelle nous-mêmes pour nous dire, est-ce que nous nous ouvrons vraiment à la vérité de Jésus ? Jésus est toujours au-delà de ce qu'on pourrait en savoir. Et nous faisons quelquefois l'expérience que, au fond, des gens qui semblent proches de Jésus ou proches de l'Église sont quelquefois les moins accueillants. Et que des gens qui semblent loin, extérieurs, au fond, manifestent une faim, une soif, un peu comme cette veuve de Sarepta, ce Syrien, Naaman. Nous faisons aussi cette expérience autour de nous. Il faut, et je terminerai par là, à partir de la première lecture tirée du livre de Jérémie, il faut que nous ayons une conscience vive que la force de l'Esprit de Dieu nous accompagne pour vivre notre mission de témoin de Jésus. Il est dit dans le livre du prophète Isaïe, du prophète Jérémie, il est dit des choses qui nous concernent, concernent pas seulement des grands prophètes extraordinaires qui avaient des missions spéciales, mais qui peuvent concerner aussi tout baptisé qui se trouve en posture pas facile dans le monde d'aujourd'hui, quelquefois dans sa propre famille, et qui doit cependant faire en fonction de sa conscience et de la vérité que Dieu lui présente à son cœur et dont il doit témoigner dans ses paroles et dans ses actes. Et le Seigneur dit à Jérémie, « Eh bien, avant que même que tu viennes au jour, je te connaissais, je t'ai choisi. Et toi, mets ta ceinture autour des reins, lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. N'aie pas peur, parce que sinon c'est moi qui vais te faire peur à cause de la difficulté du message que tu vas avoir à annoncer. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays. Ils te combattront, ils ne pourront rien contre toi. » La force de Dieu nous accompagne. Non pas que nous devions avoir une mentalité d'assiégé en disant « oh là là !» Mais la force de Dieu nous accompagne à travers cette paix qui nous habite, cette assurance qui est la nôtre, ces paroles que nous avons à délivrer et que nous avons à laisser germer dans le cœur des personnes à qui nous les partageons. C'est l'affaire de Dieu. Mais nous avons à dire, comme disait Bernadette, n'est-ce pas, quand on l'interrogeait à propos de la Vierge, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Et nous sommes chargés de parler au nom du Seigneur dans notre mission de baptismal, dans notre mission de baptiser et de confirmer. Ensuite, la foi, ça c'est Dieu qui la donnera, c'est Dieu qui fera à travers l'ouverture des cœurs tels qu'il les trouvera. Toujours vérité et charité, vous avez entendu en seconde lecture un si beau passage de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens que nous lisons de façon suivie dimanche après dimanche. Vous avez une sorte de sommaire récapitulatif de ce qu'est la charité à travers effectivement des verbes, comme on disait dans l'introduction, des verbes que saint Paul va employer pour dire ce que n'est pas la charité véritable. Il n'est pas fou, il sait bien que c'est difficile de faire le tour d'une pareille réalité, donc il procède par la négative en disant « l'amour ne s'emporte pas, l'amour n'entretient pas de rancune, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ». Et puis à la fin, il relie la charité aux deux autres vertus, la foi et l'espérance, et il dit « l'amour supporte tout, fait confiance en tout ». Il espère tout, il endure tout. vérité et charité mues par l'Esprit Saint qui nous habite.